Voilà donc un de nos derniers volets de cette première semaine avec une étude des premières et deuxièmes lettres aux Thessaloniciens. Dans quelle perspective est-ce qu'on va faire cette étude ? C'est dans la perspective d'accueillir quelqu'un qui aurait du mal à finalement trouver l'utilité de sa vie, à voir comment se placer devant Dieu pour agir simplement, comment envisager que Dieu fera un jour la récolte, comment envisager d'être en attendant cette récolte. Et on a vu de manière générale, grâce aux perspectives du bonheur, savoir comment finalement semer et récolter dans l'immédiat. On a vu, grâce au rôle de la souffrance, savoir comment se rendre compte que quelque chose ne va pas bien. On a vu, grâce à la centralité de l'amour, que finalement, quand on met l'amour au centre et Dieu au centre, alors on y est. On a vu que la vérité est là pour mettre de l'ordre, mais que l'ordre est aussi là quand on agit avec vérité. Hein, c'est-à-dire, en fait, un ensemble de choses qui composent un puzzle et qui permet finalement de se retrouver en Dieu comme un enfant, mais aussi comme un collaborateur. Servir en attendant, c'est un petit résumé des derniers versets du chapitre 1er d'un Thessalonicien. C'est une perspective. Et lire une lettre avec un fil conducteur, c'est toujours intéressant parce que ça permet de simplifier la lettre. Bien sûr, simplifier, c'est toujours simplificateur. Ça enlève toujours des horizons qu'il ne faut pas enlever. Donc voilà une lecture, c'est pour ça que j'ai mis un commentaire des Épîtres Thessaloniciens, mais une lecture qui nous permet, dans un sens, de ne pas rester dans l'impasse des hautes folies, de penser que notre travail est inutile, de penser que finalement ce que je fais aujourd'hui n'a aucune incidence avec ce que je serai demain ou dans le royaume, ce que nous allons voir avec précision. Ici, un petit rappel, parce que c'est intéressant de voir que 1 et 2 Thessaloniciens, c'est une des premières lettres que Paul a écrite. Intéressant. Hein, on voit que finalement, Paul, il a peut-être pas 50 ans quand il écrit cette lettre. Et il meurt vers 68, 67, 68. Et donc, quand il écrit ses dernières lettres, 2 Timothée, par exemple, qui est sa dernière lettre, alors il dit « Je suis un vieillard, un homme âgé ». Et il donne vraiment la quintessence de ce qu'il a, 2 Timothée, c'est savoir se relever de ses chutes. Ça nous parle un peu. Alors qu'en fait, quand il écrit 1 et 2 Thessaloniciens, il est un homme... comment dire, au début de son ministère, il a eu il a fait son premier voyage missionnaire, mais il y a quand même un ensemble de choses qui se font. C'est à la fin du premier voyage missionnaire qu'il a cette difficulté avec Barnabas, hein, et qu'il part avec Silas pour un deuxième voyage missionnaire. Et donc, on peut voir que 1 et 2 Thessaloniciens, c'est la perspective cadrée d'un homme énergique. Hein, qui dit, vous savez, ce qu'on fait, c'est utile. Alors que les dernières lettres, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, c'est plutôt, voilà, un peu l'essentiel de la vie chrétienne, et suivant à qui on a affaire, là aussi, on se rend compte qu'on peut donner des messages adaptés, hein, et parler plutôt de ceci, plutôt finalement de l'encouragement de Timothée à quelqu'un qui est à la fin de sa vie, ou à quelqu'un pourtant qui est jeune, comme Timothée, mais qui est un peu accablé, parce qu'il dit, mais enfin, j'arrête pas d'être par terre, comment est-ce que je peux faire pour me relever? Alors, avec 1 et 2 Thessaloniciens, on voit donc que finalement, on peut très bien envisager notre démarche active avec bonheur, parce qu'en fait, ce que nous faisons, nous, c'est-à-dire nous qui sommes ici dans cette pièce, ici pour le Seigneur, c'est certain que ça produit et que ça produira. Voilà. Hein? Attendre pour récolter. Nous sommes en train de semer quelque chose. Si on regarde comme ça, comment être frustré? Impossible. Et chaque fois que nous sommes frustrés, c'est que nous ne le regardons pas comme ça. Et nous ne savons pas attendre. Et nous ne savons pas être patients. Alors voilà, pour moi, ça pose les choses de manière carrée. Hein, servir en attendant. Si j'oublie ce genre de choses, mais je passe à côté de l'essentiel. Si j'oublie que cette attente qui m'est demandée, hein, Dieu nous appelle à son royaume. Il n'est pas là le royaume, encore. Vous voyez comme j'insiste. Hein? Dieu nous appelle à son royaume. Dieu nous appelle à un moment donné où ce que nous faisons trouvera son apothéose. Alors, le moment n'est pas encore venu pour que ce que nous faisons trouve son apothéose. Et alors, nous avons des petites tristesses. Mais c'est normal dans un sens, parce que, en fait, l'aboutissement des choses n'est pas encore là. Il le sera dans le royaume. Il le sera quand, effectivement, en commençant par le tribunal de Christ, comme on l'a vu hier soir, Dieu posera les choses et posera les choses avec les enfants de Dieu et avec Israël et les nations. Autrement dit, ça sera dans un cadre comme celui que nous connaissons maintenant, avec des gens qui ne sont pas des enfants de Dieu, avec des gens qui seront sous la discipline, hein, comme on l'a rappelé, le jeune homme mourra âgé de 100 ans, Ésaïe 65, ou bien le pécheur sera retranché chaque matin. C'est pour ça que faire cette étude sur un Thessalonicien a des enjeux pour nous. C'est pour ça que, du point de vue pastoral, il y a des enjeux. Voilà. Quels sont les enjeux de ces deux lettres aux Thessaloniciens? La première, c'est que nous sommes délivrés de la colère. Bon, alors je le répète, hein, mais c'est bien de répéter quand même. Hein. Hein? Mais depuis qu'on en a parlé, vous avez culpabilisé? Hein? Je ne vous demande pas de répondre. Mais c'est ça l'enjeu en fait. On est délivré de la colère qui vient. Elle vient quand la colère? Eh bien la colère, elle sera, par exemple, dans la grande tribulation. Hein? La colère de Dieu, fera que les hommes récolteront immédiatement ce qu'ils sèment. Et je pense qu'il y aura des problèmes terribles dans ces 3 années et demie de pollution. Et dans ces 3 ans et demi, alors il y aura un évangile du royaume qui sera prêché. Parce qu'il y aura un problème avec les juifs, justement. Mais il y aura une colère. Et les coupes de la colère de Dieu, les 7 coupes de la colère de Dieu, finalement, seront marquées, par exemple... Je ne veux pas faire un développement de l'Apocalypse, ce n'est pas le sujet. Mais seront marqués par Armageddon. Non pas que Dieu punisse ou fasse quelque chose, mais Dieu finalement laissera les hommes s'entretuer. Et alors que, dans un sens, aujourd'hui, il y a quelque chose qui retient. L'aboutissement de la bêtise humaine, du péché de l'homme, n'est pas encore venu à son comble. Et en Armageddon, il sera venu à son comble, ou pour avoir paix, en fait, alors les hommes s'entretueront. Pour qu'il y ait un système général, un empire dans lequel tout soit cohérent, alors les hommes s'entretueront. Alors nous sommes délivrés de la colère. Nous sommes délivrés parce que nous avons été jugés en Christ. Nous sommes délivrés parce que nous ne participerons pas au jugement dernier. Voilà un premier enjeu. Et donc, finalement, ce que je fais de mal aujourd'hui, je n'emporte pas la culpabilité, mais Dieu me dit, bon, arrête de faire mal, j'ai besoin de toi pour que tu collabores avec moi. Deuxième chose dans 1 Thessaloniciens, c'est qu'il y a une récompense des œuvres faites. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans 1 Thessaloniciens, il y a 5 chapitres, et à chaque fois, dans chaque chapitre, et la mise en chapitre a été faite au XIIIe siècle, on n'est pas sûr de savoir qui est-ce qui l'a faite. Et dans chaque chapitre, il y a une mention du retour de Jésus-Christ. Et donc, dans le premier chapitre, on attend en fait la venue du Seigneur Jésus, et en attendant, on le sert. Mais quand il va venir, alors il y aura la colère. Mais dans le deuxième chapitre, au verset 19, il est question de la récompense, et la récompense de Paul. Et la récompense de Paul, ce sont les Thessaloniciens. Les Thessaloniciens, ce sont ses fruits, sa couronne. Et vous remarquez que le mot couronne n'est peut-être pas choisi au hasard. C'est quoi une couronne ? C'est un symbole d'autorité. Quelqu'un de couronné, c'est quelqu'un qui, dans un sens, est récompensé, mais c'est quelqu'un qui a une autorité, quelque part. Et donc, dans ce verset 19, hein, « Car quelle est notre espérance ou notre gloire, ou la couronne dont nous nous glorifions, n'est-ce pas bien devant vous, n'est-ce pas bien vous devant notre Seigneur Jésus à sa venue ?» Autrement dit, vous êtes notre gloire, vous êtes la manifestation complète à sa venue du fruit que nous aurons porté. Et vous êtes notre couronne, autrement dit, Paul et les apôtres, hein, puisque Paul écrit avec Sylvain et Timothée dans cette lettre aux Thessaloniciens. Donc Paul dit simplement qu'à la venue de Jésus, ils auront une couronne, ils auront une autorité sur quelque chose. Et l'Apocalypse, chapitre 2, verset 26-27, nous dit que nous aurons autorité sur les nations. Et qu'à ce moment-là, le Messie pètera les nations avec un sceptre de fer. Autrement dit, il me semble assez indiscutable que l'Église aura un rôle administratif de conduire les nations avec le Messie. Le Messie étant le roi des rois, le roi de ceux qui règnent. Le roi des rois, c'est une expression d'Apocalypse 17. Et le roi de ceux qui règnent, je crois que c'est 2 Timothée 4,16, hein, sauf erreur. Voilà une récompense des œuvres faites. Et comment cette récompense se fera? Eh bien, elle se fera dans l'intégration dans l'équipe administrative du Messie pendant le royaume. Dieu a un plan, hein, qui commence dès la Genèse, qui finit dans l'Apocalypse, et qui est focalisé dans les évangiles. C'est le royaume, c'est-à-dire le royaume est une bénédiction pour les nations entières. En Genèse 9, Dieu fait une alliance avec qui ? Avec l'ensemble de l'humanité. Il dit, c'est fini, je ne détruirai plus l'humanité par l'eau. Et il fait une alliance en mettant l'arc-en-ciel, signe que certainement les conditions climatiques ont changé. Il y a quelque chose de différent après le déluge d'avant, puisqu'il y a un arc-en-ciel, comme si avant les gens ne l'avaient jamais vu. Mais il fait une alliance avec qui ? Avec tout le monde. En Noé, il fait une alliance avec l'humanité. Cette alliance, elle se prolonge en Genèse 17, avec qui ? Avec Israël en Abraham. Mais est-ce que c'est une alliance simplement avec Abraham ? Non. Est-ce que c'est une alliance simplement avec Israël ? Non. Parce qu'en Genèse 12, au verset 3, Dieu avait dit à Abraham, « En toi seront bénies toutes les nations de la terre. » Autrement dit, l'alliance que Dieu fait avec Israël, c'est une alliance pour la bénédiction des nations. Et Israël doit être ce peuple ambassadeur, lumière, instructeur, modèle, témoin, et le lieu de la présence de Dieu. Quand est-ce que la présence de Dieu vient ? Eh bien, elle vient au bout de ces 40 ans de pérégrination dans le désert, quand la gloire de Dieu remplit le tabernacle. Et il faut peu de temps après pour que la gloire de Dieu soit dans ce petit territoire d'Israël dans lequel Dieu est pour être le Dieu qui est, qui se révèle et qui se voit La gloire de Dieu est dans le tabernacle et sera dans le temple. Et de sorte qu'Israël est un petit pays dans lequel Dieu habite. Les nations, non. Dieu n'habite pas dans les nations. Mais pendant le royaume, qu'est-ce qu'on voit en Ésaïe 2, par exemple? On voit que les nations viendront à Jérusalem. Et viendront pourquoi? Pour être instruites. Pourquoi? Parce qu'en Israël, pendant le royaume, pendant le règne du roi, dans le royaume, alors il n'y aura pas de chômage, de pollution, de crise économique, de crise sociale. Et les nations diront, mais enfin, comment vous faites? Vous êtes un pays dans lequel il n'y a rien. Il n'y a pas de matière première. C'est un petit lieu rocailleux où vous attendez qu'à la pluie, etc. Vous êtes les plus riches. Vous êtes les plus intelligents. Vous savez comment soigner. Vous savez comment gérer un pays. Et les Juifs annonceront l'évangile du royaume, la bonne nouvelle du royaume, le pays dans lequel Dieu habite. C'est ça l'évangile du royaume. Et Jésus, Matthieu 4, 23, Matthieu 9, 35 peut-être, annonce l'évangile du royaume. Le roi est en train d'arriver. Ézéchiel avait prophétisé au chapitre 11 que la gloire de l'Éternel quitterait le royaume. Et elle a quitté le royaume. Et dès que la gloire quitte le royaume, alors ce n'est plus le temps d'Israël, c'est le temps des nations. Expression d'Ézéchiel 30. Mais la gloire de l'Éternel devait revenir, en fait. Mais ça dépendait un peu de comment Israël réagirait. Et alors, la gloire de l'Éternel, l'Orient en haut nous a visités, nous dit Zacharie en Luc 2. Mais l'Orient en haut, il est venu, mais il n'a pas été reçu, en fait. Et donc, le roi n'étant pas reçu dans son royaume, alors par le rejet du roi, alors l'évangile est annoncé aux nations, mais pas l'évangile du royaume, l'évangile du salut. Et alors, le royaume, eh bien le Messie, viendra, et dans le royaume, alors le projet de Dieu de l'évangile du royaume sera complet, c'est-à-dire qu'il y aura un projet national de Dieu, où les nations, du point de vue politique, seront bénies par la nation dans laquelle Dieu habite. Et c'est là où la récompense des œuvres sera totale, notre couronne. C'est là où nous aurons notre récompense. Notre récompense n'est pas pour l'éternité. Notre récompense est de construire pour les premiers cieux et pour la première terre, en fait, de préparer le règne, que ton règne vienne, hein, Matthieu 6, et puis 2 Pierre 3, nous attendons et nous hâtons la venue du Fils de Dieu parce que nous préparons son royaume par nos actions. Alors comment le Seigneur, en tant que Messie, en tant que roi, utilisera nos actions? C'est un peu difficile à l'envisager. Mais par exemple, il y aura des lieux d'enseignement comme la faculté de théologie. Alors de ce point de vue-là, les chrétiens ont préparé le royaume de Dieu pendant lequel le Messie enseignera aux nations ce qu'il faut savoir sur Dieu et sur les lois, par exemple, du Pentateuque, qui sont des lois pour un pays. Et ces lois pour un pays seront envisageables pour Israël parce qu'elles correspondent au lieu, mais elles ne correspondent pas au lieu, par exemple, de la Laponie ou du Chili, qui est une autre terre avec d'autres animaux à manger. Et donc, peut-être que pendant le royaume, chaque nation viendra et demandera à être enseignée. Et dans chaque nation, il y aura des lieux d'enseignement pour savoir quelle est la véritable loi spirituelle, morale, économique, sociale, patrimoniale, pour le pays donné. Et là, alors, l'équipe administrative du Messie, mettra en œuvre ses récompenses, c'est-à-dire ses responsabilités. À celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai autorité sur les nations. Et on verra dans cette deuxième lettre aux Thessaloniciens que notre dignité sera montrée à ce moment-là, dans le royaume. Alors, les enjeux, c'est que nous retrouverons l'ensemble des saints. Voilà une autre récompense. À la venue du Seigneur Jésus, chapitre 3, verset 13, il est dit que le Seigneur, fin du verset 12, vous fasse abonder, surabonder en amour les uns envers les autres, et pour affermir vos cœurs sans reproche et en sainteté devant notre Dieu et Père, en la venue de notre Seigneur Jésus avec tous ces saints. Autrement dit, les personnes qui souffrent et qui disent « mais moi je n'ai pas connu mon papa ou ma maman », alors là il y aura une réalité, il y aura une complétude, il y aura quelque chose qui fait du bien aux gens de savoir que nous retrouverons, que Dieu a un projet familial. Le projet national de Dieu avec le royaume, c'est aussi un projet familial parce que la nation, c'est l'ensemble de familles. En Israël, il faut accueillir l'étranger. Mais l'étranger, il faut qu'il soit circoncis. Autrement dit, il faut qu'il rentre dans les pratiques de la famille. Il faut qu'il rentre dans la loi de Dieu, mais la loi de Dieu qui est pour la famille. Et l'accueil de l'étranger, ce n'est pas pour que dans le pays, l'étranger fasse n'importe quoi. Et donc, nous retrouverons, à mon sens, cette dimension familiale. Le Seigneur Jésus viendra avec l'ensemble des saints et nous retrouverons quelque chose de cohérent avec des traditions familiales et toute la beauté de ce que les familles sont capables de donner. Alors l'enjeu, c'est que la première chose que nous attendons, c'est l'enlèvement des vivants. Et voilà le butoir. Nous avons à travailler jusqu'à ce que nous soyons enlevés. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on sera enlevé. Peut-être qu'on ne va pas pouvoir finir notre réflexion. Peut-être qu'on ne va pas pouvoir mettre en œuvre le fait de recevoir des gens avec ces outils. Eh bien, ça ne fait rien. Peut-être que ça servira 3 ans et demi après. Là, on parlera un peu du 3 ans et demi ou 7 ans, peu importe. Mais en tout cas, quelques années après, pour l'enseignement des nations. Peut-être qu'on utilisera ces outils pour l'enseignement des nations en disant « Mais là où vous avez mal, vous avez à réfléchir ». Voilà donc un enjeu, c'est qu'il y ait une date butoir. Un autre enjeu, c'est que, en fonction de la connaissance de ces choses, alors nous avons une responsabilité. Que votre être tout entier, dit 1 Thessaloniciens 5:23, soit conservé sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors voilà notre responsabilité, sans reproche. Dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, l'enjeu, c'est finalement la place que nous aurons dans le royaume. C'est pas qu'on s'en enorgueillisse de cette place, c'est pas qu'on cherche à être le premier, c'est tout simplement qu'on cherche à avoir notre place. Ça, c'est fondamentalement différent. Quel dommage pour celui que le Messie appelle à prendre place dans le royaume, quel dommage de ne pas être à sa place. Est-ce que vous voyez la différence? Je ne cherche pas à être le premier, je cherche à être à ma place. Mais si je ne fais pas ce que je dois faire maintenant, eh bien je ne serai pas à ma place dans le royaume. Quelle catastrophe! Et on entend bien cette injonction de 1 Corinthiens 3, 14 ou 15, que si l'ouvrage de quelqu'un est brûlé par le feu, il en éprouvera une perte. Alors il ne faut pas envisager que quand nous serons enlevés et puis nous aurons des corps glorifiés, il ne faut pas envisager que nous n'éprouverons pas de sentiments douloureux. Il en éprouvera une perte, parce que peut-être que là, notre dignité dans le royaume ne sera pas celle qu'on devrait avoir. Ces couronnes qu'on jettera aux pieds du Seigneur, bien sûr, mais c'est-à-dire que la couronne, on l'a, mais on reconnaît que celui qui est couronné au-dessus, c'est Christ, c'est-à-dire le roi. Christ n'est pas encore notre roi, contrairement à ce qu'on peut chanter. Mais Christ sera le roi, mais il ne sera pas dans le royaume notre roi. Il sera le roi sur Israël et les nations, nous serons l'épouse. Nous aurons un rapport avec Christ qui ne sera pas un rapport de soumission, mais un rapport de... Oui, bien sûr, de soumission, mais de soumission de l'épouse à l'époux. Alors voilà des choses qui peut-être nous éveillent dans notre réflexion. L'enjeu aussi, c'est que au chapitre 2, nous avons une connaissance des événements. Nous savons que le jour du Seigneur, et Paul adjure par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, par cet enlèvement de l'Église, il invoque l'événement de l'enlèvement de l'Église en disant « ne soyez pas troublés », comme si le jour du Seigneur était là, Jésus ne régnait pas encore, il n'est pas encore Seigneur. Et il dit que ce jour-là ne viendra que quand... Trois choses. Première chose, l'apostasie sera là. Deuxième chose, L'homme de péché sera là. Et troisième chose, ce qui retient ne sera plus là pour que l'homme de péché soit enlevé. Et si vous cherchez dans l'abondance de la littérature, personne n'a trouvé d'autre. Même les aménénéristes disent que ce qui retient, ça doit être quand même l'Esprit de Dieu ou l'Église. Donc en fait, il y a l'Église qui retient, quand l'Église ne sera plus là, alors sera révélé l'Antichrist. Et donc, on a une connaissance des événements, on sait que tant que l'Église est là, tant que ce qui retient est là, alors l'Antichrist ne peut pas venir. Et on comprend que quand l'Église sera enlevée, eh bien, ceux qui, finalement, auront voulu un roi selon leur cœur, alors ils auront un roi selon leur cœur, ils auront l'Antichrist. Et peut-être qu'ils auront un système, vous avez peut-être lu Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, voilà, ils auront ça. Et du point de vue de l'homme, ce n'est pas dramatique. Hein? Toute l'intervention de la technique dans le monde, hein, avec le choix génétique du sexe, de la couleur des yeux, etc. Bon, c'est affreux du point de vue de Dieu. Mais du point de vue de l'homme, pourquoi pas, hein, qu'on soit tous blonds aux yeux bleus et qu'on fasse tous un rapport taille, poids, etc. Voilà. Du point de vue de Dieu, c'est invraisemblable. Hein, mais c'est ça. Et quand ils diront paix et sûreté, hein, c'est ça, en fait, ce monde, hermétique, parce qu'il n'y a plus de hasard, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de... mais il aboutira quand même, pour l'Empire, à une destruction entre les hommes, non pas que Dieu la veuille, mais que ces hommes-là, dans un sens, feront confiance au Dieu de ce siècle, qui a pour but de les anéantir, parce qu'il est meurtrier. Alors voilà la grande tribulation, mais nous n'aurons pas... part à la grande tribulation parce que nous avons été délivrés de la colère qui vient. Parce que nous serons, dit Apocalypse 3, versets 10 ou 11 ou 12, gardés de l'heure de l'épreuve qui va arriver sur la terre habitée tout entière. Pourquoi ? Parce qu'ils ont voulu un roi, ils ont voulu un Dieu qui n'est pas Dieu. Et donc, ils auront le Dieu qu'ils auront demandé. Dieu ne punit pas. Dieu donne ce que l'homme demande. Alors, nous avons cette connaissance des événements. Et en attendant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Travailler. C'est simple. C'est simple. Il faut travailler en attendant. Hein ? Ça commence par travailler, servir en attendant. Ça finit par servir en attendant. Et donc, ces lettres aux Thessaloniciens, eh bien, c'est... Voilà, vous vous êtes tourné. Alors, dans cette lettre, j'ai fait remarquer cette alternance entre, regardez bien le plan, entre vous, chapitre 1er, versets 6 à 10, entre nous, notre entrée au milieu de vous, chapitre 2, versets 11 à 12, les Juifs, chapitre 2, versets 13 à 16, parce que finalement, il y a ces oppositions du peuple qui dit « Oui, mais on a encore le peuple à qui Dieu s'adresse, etc. » Et donc, ils ont des difficultés. Et puis, encore nous, c'est-à-dire les apôtres, notre travail, chapitre 2, verset 17 à 3, verset 13. Et puis vous, c'est-à-dire les Thessaloniciens, mais allez-y, travaillez, travaillez pour le royaume. Travaillez, mais et puis vous et nous, veillons, soyons sobres, chapitre 4, verset 13 à chapitre 5, verset 24, avec un peu en enclave, oui, mais eux, quand le... quand justement l'enlèvement se produira, alors eux, ils auront des difficultés. Et puis la conclusion au chapitre 5, versets 24-28. Dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, après l'introduction, il y a finalement cette perspective de la dignité du royaume de Dieu. Il y a l'avertissement à bien connaître les temps, hein, comme s'il, ne faites pas comme si le jour du Seigneur était là, chapitre 2, versets 1 à 12. Et puis, chapitre 2, verset 13 à chapitre 3, verset 15, retenez les enseignements que vous avez appris. Et donc, travaillez. Et chapitre 3, verset 16 à 18, la conclusion. Alors, de manière générale, le plan, c'est quand même l'alternance entre ce que sont les Thessaloniciens, ce que sont les apôtres, et ce que sont ceux qui ne croient pas, les Juifs, ou bien ceux qui ne croient pas à l'Évangile, au chapitre 5. Dans la deuxième lettre, il y a encore une alternance entre, finalement, ce que disent les apôtres, ou en tout cas Paul, Sylvain, Timothée, ce que vivent les Thessaloniciens et ce que font ceux qui marchent dans le désordre, ceux qui ne travaillent pas. On retrouve ces mêmes choses et donc on va commencer par voir ceux qui ne sont pas dans l'impasse des hautes folies, c'est-à-dire ceux qui se sont tournés, c'est-à-dire les Thessaloniciens. On va faire un survol, on va voir qu'ils sont devenus, au verset 6, imitateurs des apôtres et ceux du Seigneur. On va voir qu'ils l'ont fait parce qu'ils ont reçu la parole, mais qu'ils ont bien sûr reçu la parole et qu'il y a eu des souffrances. Alors, on en a parlé de ces souffrances, on les comprend, et on a tous les mêmes souffrances dans un sens, mais elles ne se manifestent pas de la même manière. Eux, ils avaient les Juifs contre eux. Nous, on a peut-être les légalistes contre nous, ou on a peut-être l'opprobre de l'esprit du monde. On a d'autres manières de souffrance, mais fondamentalement, ce sont les mêmes. On a la joie de l'Esprit Saint. Quand on a compris le modèle des apôtres et du Seigneur, alors on peut être des modèles pour les autres. Il y a toujours les mêmes choses. La foi envers Dieu s'est répandue. Vous remarquez que c'est la foi, c'est la relation, et pas forcément l'action. Mais elle s'est répandue. Elle s'est répandue avec le travail qui a été fait. Et la conclusion de ce qui concerne les Thessaloniciens, avec ce tableau général qui est un tableau beau et intéressant, c'est qu'ils se sont tournés les idoles vers Dieu. Donc, une foi, une relation, mais pour servir. On trouve relation et action, toujours ces deux choses qui nous caractérisent, relation et action, relation qui apporte l'amour, et action qui apporte la paix. C'est-à-dire, parce qu'on est en relation, on n'est pas en déficit d'amour, et on est dans l'amour, on est dans le plaisir, et on est dans la joie, parce qu'on est en relation. Vous vous souvenez de cette colonne de droite, dans le tableau des émotions. Quand on est en relation avec Dieu, alors, effectivement, eh bien, on peut apprécier quelqu'un, parce qu'on sait que toute personne a du prix. Alors on aime, on peut apprécier ce qu'on fait parce qu'on reçoit la valeur des choses qu'on est en train de faire, alors on a du plaisir. On peut recevoir le prix des circonstances, alors on sait se réjouir et on sait, même si on n'a pas bien pris, comme on disait hier soir, on sait estimer les difficultés comme une joie. Mais dans l'action, alors on a dans la vérité, dans la justice, on a véritablement ces émotions qui correspondent à l'action. On est en paix avec nous-mêmes parce qu'on travaille. On est satisfait parce qu'on fait ce qui est juste. Et on est serein parce qu'on sait que les circonstances sont dans la main de Dieu. Alors, l'exemple des Thessaloniciens est là pour nous encourager. Ils se sont tournés. Et l'exemple des apôtres est aussi là pour nous encourager. Alors, ils disent, notre entrée au milieu de vous n'a pas été vaine. Vous voyez comme ils sont satisfaits. Pourtant, il y avait des difficultés. Pourtant, il y avait les difficultés des Juifs, Thessalonique, les Juifs de Thessalonique. Ceux de Bérée étaient plus nobles que ceux de Thessalonique. Vous vous souvenez, dans le livre des Actes, il y avait des difficultés. Mais finalement, il y avait des chrétiens à Thessalonique qui se sont donnés au Seigneur. Et donc, vous voyez comment les apôtres voient le fruit de leur travail, mais ne sont pas anéantis ou découragés parce que les Juifs de Thessalonique n'étaient pas nobles et n'ont pas reçu le message. Et ils expriment qu'ils ont souffert et ils rappellent qu'ils ont eu besoin de hardiesse pour annoncer l'Évangile. Et ils rappellent comment ils l'ont annoncé, pas de séduction, d'impureté, de ruse. On est en train de faire une lecture cursive du chapitre 2, versets 1, 2, 3. Ils rappellent qu'ils l'ont fait comme plaisant à Dieu, comment est-ce qu'on plaît à Dieu? Est-ce qu'on plaît à Dieu à cause de ce qu'on fait? Non. On plaît à Dieu par la foi. Sans la foi, nous dit Hébreux 11, verset 6, il est impossible de plaire à Dieu. Ce n'est pas dans le comment je fais les choses que je plais à Dieu, parce que le comment, il est toujours arbitraire. Mais c'est la relation, c'est la foi qui me permet d'être véritablement comme il faut en action. Ce n'est jamais mon action qui plaît à Dieu, c'est ma relation. Est-ce que dans le moment où je vous parle, est-ce que je suis en relation avec Dieu? C'est ça qui est fondamental. Quand je serai dans une relation pastorale, ce n'est pas la manière dont je vais conduire ma relation pastorale qui plaira à Dieu. C'est est-ce que vraiment je suis connecté? Est-ce que je suis en communion? Est-ce que je suis dans ce désir, en fait, de vivre la relation? Et c'est là où vraiment je suis dans la foi. Alors, je ne reçois pas la gloire qui vient des hommes. C'est invraisemblable de dire, ah oui, là, Jean-Paul est quelqu'un qui fait très bien le travail pastoral parce que beaucoup de personnes lui ont dit qu'il le faisait très bien. Ça n'a pas de sens. Il fait très bien le travail pastoral parce qu'il est appelé de Dieu. Point. Il fait très bien le travail pastoral parce qu'il est dans la relation avec Dieu quand il le fait. Point. Ça, c'est notre ancrage. On n'est pas, comment dire, dans un travail pastoral parce que on a fait un stage avec Guillaume Argaud. Ça n'a pas de sens. On est dans un travail pastoral parce qu'on est appelé de Dieu et parce qu'on s'est donné la peine pour faire ce qu'il faut de la part du Seigneur. Alors voilà, pas de gloire qui vient des hommes, chapitre 2, versets 5 et 6. Mais on le fait un peu comme Dieu, hein, comme une nourrice, on a compris le rôle maternel, et puis comme un papa, on a compris le rôle paternel. Pourquoi ? Ben finalement, parce que Dieu fait exactement la même chose avec nous. Comme une nourrice, chapitre 2, versets 7 à 9, comme un père, chapitre 2, versets 10 à 12. Alors là, on a vu l'exemple des Thessaloniciens, on a vu l'exemple des apôtres, et qu'est-ce qu'on voit comme exemple ? Que eux sont dans la satisfaction de ce qu'ils font. Dans la satisfaction, pourquoi ? Parce qu'en fait, non pas qu'ils soient satisfaits d'avoir du fruit de leur travail, non, parce qu'ils savent qu'il faut attendre. Par contre, les Juifs, si ceux de Thessalonique avaient accepté la parole de Dieu, chapitre 2, verset 13, si ceux de Thessalonique étaient devenus les imitateurs, verset 14, alors les Juifs ont fait souffrir, verset 15. Ils ont fait souffrir parce qu'ils ont mis à mort le Seigneur Jésus et les prophètes, verset 15. Mais ils ont amené la persécution, verset 15. Ils font des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Ils sont opposés aux hommes, verset 15. Ils nous empêchent de parler aux nations, verset 16. Et pour combler la mesure de leur péché, alors la colère est venue sur eux. Alors, effectivement, malheureusement, le peuple d'Israël, pour un temps, a été mis de côté en tant que peuple. Et qu'est-ce qu'on voit ? Entre ces années, donc Thessaloniciens est écrit vers les années 50, 54 je crois, et on voit qu'en 70, eh bien, Titus, général en chef de Vespasien, qui était l'empereur, anéantit Israël et que le temple est détruit, alors qu'il y avait des ordres de Vespasien de ne pas détruire le temple. Étonnant. Étonnant de voir comment la volonté de Dieu, de mettre son peuple de côté, mais pour un temps, parce que Israël n'est pas mis de côté, l'Église n'est pas le vrai Israël, comme tous les théologiens de l'histoire de l'Église l'ont dit, malheureusement. L'Église n'est pas le vrai Israël. Israël demeure, et Israël redeviendra comme peuple, mais la colère est venue sur eux. Alors, est-ce que le travail des apôtres est un travail vain ? Non, parce qu'ils savent attendre. Alors ils ont été séparés des Thessaloniciens. Satan les a même empêchés de revenir les voir. On voit cette circonstance décrite à un moment donné dans le livre des Actes. Paul donc raconte avec Sylvain et Timothée comment est-ce que ils ont été laissés seuls à Athènes et qu'il dit mais que personne ne soit ébranlé dans ces difficultés. Nous sommes destinés à avoir ces difficultés, chapitre 3, versets 2, 3, 4. Il dit mais ne vous laissez pas prendre par le tentateur, par celui qui tente. Dieu ne tente personne, Dieu n'éprouve personne, mais le tentateur est là. Et donc, gardez ce souvenir, verset 6. Gardez ce souvenir, Thessaloniciens, de ce que nous, les apôtres, nous sommes. Notre travail n'est pas vain. Chapitre 3, verset 6, Timothée, venant d'arriver de chez vous auprès de nous, nous ayant apporté les bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour, nous ayant dit que vous gardez toujours un bon souvenir de nous, désirant ardemment nous voir. » Alors les Thessaloniciens veulent voir les apôtres, bien sûr, mais c'est pas parce que les apôtres ne sont pas là que rien ne va. Il faut tenir ferme dans le Seigneur. Et il dit que Dieu et le Seigneur Jésus nous frayent au singulier. Voilà quelque chose de singulier. C'est que quand il y a deux sujets, en principe, on met les choses au pluriel. Mais par contre, ici, il y a Dieu et le Seigneur Jésus nous frayent au singulier. Hein, c'est, je le répète parce que c'est donc 1 Thessaloniciens 3, verset 11, où on voit cette curiosité syntaxique et grammaticale. Il y a Dieu et il y a le Fils, et le verbe est au singulier, alors que dans les Bibles modernes, il est au pluriel. Et on voit dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 2 et au verset 16, « Or, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est notre Dieu et Père qui nous a aimés au singulier. Hein? » Voilà encore une fois quelque chose qui affirme la divinité de Jésus-Christ et qui affirme l'unicité de Dieu en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, le travail n'est pas vain parce que Dieu est là, parce que Dieu, finalement, fait abonder en amour pour que nous puissions affermir nos cœurs sans reproche en sainteté, chapitre 3, versets 12 et 13. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en attendant? Eh bien, j'ai mis ici « faire plus que comprendre ». Voilà. C'est un peu paradoxal dans ma démarche qui est une démarche de compréhension. Hein? Mais vraiment, pour qu'on comprenne bien que notre travail n'est pas vain, alors allons-y, travaillons. Nous ne comprenons pas tout. Nous faisons les choses en attendant. Nous avons du mal à véritablement envisager comment ces choses-là pourront aboutir. Eh bien, allons-y, travaillons, hein? Faisons plus que comprendre. Alors, pour que les progrès des Thessaloniciens soient là, au chapitre 4, alors il faut s'abstenir de la fornication. Cherchez pas trop à comprendre. Hein? Mais ce qui vous est dit, faites-le. Qu'est-ce que c'est la fornication? C'est l'activité sexuelle déréglée. Qu'est-ce que c'est l'activité sexuelle déréglée? C'est le fait d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un avec qui on n'est pas dans l'alliance protégée du mariage, ou bien avec quelqu'un qui est lié par le mariage. Mais la fornication, ce n'est pas la masturbation. J'en profite pour donner quelques repères. Hein, il faut arrêter avec cet emprisonnement dans lequel on met les gens en disant « il ne faut pas se masturber ». Hein, il faut arrêter de voir la sexualité comme finalement quelque chose qui est lié au péché. Hein? Alors moi, quand j'ai en travail pastoral des hommes célibataires de 50, 60 ans et des femmes qui sont emprisonnés dans le commandement de l'Église en disant « mais qu'est-ce que je fais de ma sexualité ?» Je leur dis « mais allez en paix et vivez ce que vous vivez. » Point. Hein, la fornication, c'est clair. Hein, je ne sais pas si je suis suffisamment précis, je pense l'être. Hein. La fornication, c'est le fait d'avoir une activité sexuelle en dehors du mariage. Mais c'est avec quelqu'un, en fait. Hein, la masturbation n'est jamais montrée dans la Bible comme quelque chose qui pose problème. Alors, il faut vivre notre vase en sainteté. En sainteté, c'est-à-dire, en fait, il faut vivre devant Dieu. C'est ça, la sainteté. Il ne faut pas confondre la sainteté et la pureté. Hein? La sainteté, c'est mon vase, ma personne, elle n'est véritablement de Dieu que si elle est en face à face. Hein? J'aime bien cette image qu'il y avait hier, hein, de ces regards qui sont là, les uns à côté des autres. Elle n'est pas dans la passion de la convoitise, la passion c'est la souffrance. La convoitise résulte du manque de sainteté. La convoitise résulte de l'impiété. On trouve ça typiquement dans Romains 1, je vous le dis pour vous le notiez, et dans Jude. La convoitise résulte de l'impiété. La convoitise résulte de l'absence de face à face. Quand on est loin de Dieu, on est perdu, on est livré à nous-mêmes, c'est le malheur, c'est la misère. Il n'y a que le face-à-face qui puisse nous faire progresser. Ce n'est pas nos efforts qui nous font progresser, c'est le face-à-face. On a comme effort à faire que l'effort d'être dans un face-à-face. Et donc, pour être en progrès, pour servir en attendant, il faut être dans ce face-à-face. Alors, que personne ne circonvienne son frère, qu'est-ce que ça veut dire dans l'affaire ? C'est que personne ne prenne la femme de son frère. C'est-à-dire, dans les choses simples, il faut rester simple. L'adultère est une chose affreuse. Prendre le conjoint de quelqu'un, mais c'est un mal, mais invraisemblable. Comment est-ce qu'on peut divorcer ? Comment est-ce qu'on peut dire à un moment donné, toi qui es la personne à qui je me suis allié, je ne te vois plus de qualité. Comment dire ? Je te vois plus d'inconvénients que d'avantages. Mais c'est insensé de dire des choses pareilles. Et il faut dire à quelqu'un qui est en train de divorcer, mais dire, mais tu, finalement, tu méprises une personne en la comparant avec un ensemble de circonstances dans lesquelles tu es mal. Mais c'est invraisemblable que personne ne circonvienne son frère. C'est-à-dire, ne vous faites pas de mal. Ici, il s'agit d'adultère. Mais dans le divorce, il s'agit vraiment d'avoir un rapport à l'autre qui soit vrai. Un rapport dans lequel on puisse dire à l'autre, mais arrête de déconsidérer la personne qui est en face de toi. Bien sûr, tu souffres. Bien sûr, vous ne savez plus vous parler. Bien sûr, vous ne savez plus faire des choses ensemble. Mais retrouvez-vous. Vous avez chacun un prix inestimable. Retrouvez-vous dans ce prix que vous avez l'un à l'égard de l'autre. C'est ça, savoir servir en attendant que toute chose soit aboutie. Si ça ne vous suffit pas, le Seigneur est vengeur. Attention, vous êtes en train d'amener sur vous de la colère dans ce que vous faites. Et Dieu ne nous appelle pas à l'impureté. Notez bien cette comparaison. Dieu ne nous appelle pas à l'impureté, mais à la sainteté. Dieu ne nous appelle pas à mal faire, mais à nous bien tenir devant lui. Ce n'est pas une comparaison entre ce que je fais mal et ce que je fais bien. C'est entre ce que je fais mal et le fait que je ne me tienne pas devant lui. Dieu m'appelle à la sainteté. Attention, celui qui méprise l'autre parce que on circonvient son frère à cause de l'adultère, celui qui méprise l'autre ne méprise pas le frère, mais Dieu. Alors, je suis en progrès quand je suis dans l'amour fraternel. Je suis en progrès quand je m'applique à travailler, quand je fais mes propres affaires, quand je ne m'occupe pas des affaires de l'autre. Qu'est-ce que c'est que ces histoires dans lesquelles on se juge ? Si vous entrez dans le travail pastoral, moi je ne vais pas vous dire vous le faites bien ou vous le faites mal. Je vais le dire, faites-le avec la grâce de Dieu. Faites-le dans l'appel de Dieu. Dans Appel Espérance, on est 24 membres actifs, mais chacun le fait à sa propre responsabilité. Moi, je suis formateur, mais je ne suis pas directeur de conscience. Chacun a à le faire de la part du Seigneur Jésus. Voilà. Travaillez à vos propres affaires, travaillez à vos propres mains. Il s'agit de travailler. Tout ouvrier mérite son salaire, mais celui qui n'œuvre pas, il a un problème. Et donc, nous avons à marcher honorablement. Chapitre 4, on est en train de lire donc ces versets. Versets 3 et 4. On n'a pas besoin de personne, chapitre 4, non pardon, c'est pas verset 3 et 4, c'est chapitre 4, verset 12. Nous n'avons pas besoin de personne pour faire ce que nous avons à faire. Je relis le verset 12. Nous avons à marcher honorablement envers ceux du dehors. Donc ici, il y a une erreur de c'est chapitre 4, verset 12, ici. Nous avons à marcher honorablement envers ceux du dehors, chapitre 4, verset 12, et nous n'avons besoin de personne. Autrement dit, nous ne sommes pas avec Dieu, nous avons tout ce qu'il nous faut pour faire ce que nous avons à faire. Alors, travailler, c'est ce que nous avons vu, en attendant. Alors, en attendant, à partir du verset 13, on revient sur l'en attendant. On a vu avec le modèle des Thessaloniciens, avec le modèle des apôtres, et avec comment finalement faire, même si nous ne comprenons pas tout. Alors, on a vu comment travailler, mais on voit maintenant, en attendant, qu'est-ce qui nous est proposé avec en attendant ? Je remarque que de manière générale, il n'y a pas un mot sur la patience, ni sur le courage. Vraiment étonnant, comme si les choses étaient simples à cet égard. Voilà. On a travaillé en attendant, mais Dieu ne nous enseigne pas par rapport à la patience. Comme on l'a vu hier, Dieu ne nous enseigne pas par rapport à la connaissance de sa volonté. C'est vraiment étonnant, ça. La patience, ben c'est quelque chose de simple. Pour patience, il y a deux mots en grec. Il y a makrotumia, autrement dit, mettre le thumos, c'est la force de l'âme, le mouvement de l'âme, macro, comme dans une macrophoto, au service de la chose que nous sommes en train de faire. Je suis entièrement dévoué à la cause que je fais. Alors je patiente. Et j'ai la force que Dieu me donne pour faire ce qu'il me demande. Je patiente. On ne va pas plus loin. On en reste à ce qui est écrit, on en reste à ce qu'on entend. Le deuxième terme, ce mot patience, c'est 5 fois à la fin de l'épître de Jacques, comme le 6e principe de l'épître de Jacques. Et il y a les deux termes, justement, pour la patience qui sont utilisés. Le deuxième terme, c'est hupomone. Mone, c'est un participe présent de meno qui veut dire rester. Et hupo, c'est en dessous. Autrement dit, par exemple, si on joue à un petit jeu, je mets ma Bible qui est un peu lourde, c'est une grosse Bible, sur ma main, et je vais voir combien de temps j'attends. Je vais attendre quelques minutes, mais je ne pourrai pas tenir comme ça longtemps. Eh bien, la patience, c'est la capacité, vous voyez, j'ai déjà mal au bras là, c'est la capacité de rester dessous, mais dans le temps, justement, que Dieu nous demande d'attendre. C'est ça la patience, hupo, monnaie. Eh bien, la patience et le courage, c'est simple. J'ai la force de rester dessous le temps que Dieu me demande de rester. Alors, vivre cette patience, qu'est-ce qui m'est donné? Alors, première chose, chapitre 4, versets 13 à 18, je ne suis pas dans l'ignorance à l'égard de ceux qui sont morts, parce que Dieu amènera ceux qui sont endormis par Jésus, parce que nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis, parce que le Seigneur lui-même descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensemble avec eux à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs. Nous serons toujours avec le Seigneur et nous pouvons nous consoler l'un l'autre par ces paroles. Autrement dit, parce que je ne suis pas dans l'ignorance, je ne suis pas affligé. On a vu ce rapport dans le rôle des émotions entre le pôle rationnel, je sais ces choses-là, et le pôle émotionnel. Alors c'est sûr que dans l'ensevelissement, je pleure. Mon père est mort il y a 5 ans, j'ai pleuré. Je suis dans l'affliction. Mais dans un sens, je suis aussi consolé parce que je sais ces choses. Et ceux des nations qui ne connaissent pas le Seigneur ne sont pas consolés et ils n'ont pas cette consolation. Je ne veux pas dire que dans l'ensevelissement, on doit être raide comme un piquet et surtout ne pas verser une larme. On est bien d'accord. On est consolé par ces paroles. On vit nos émotions. Et on vit nos émotions douloureuses. Effectivement, on est triste de l'événement qui effectivement est triste. La mort est un scandale. Et la mort, nous dit 1 Corinthiens 15, est le dernier ennemi qui sera vaincu. Alors on est triste, c'est normal. Mais on est consolé, on n'est pas affligé, on n'est pas abattu. Alors voilà, en attendant, il y a cette mort qui est un scandale, mais on attend et on avance. En attendant, on sait que le jour du Seigneur vient comme un voleur. On ne sait pas quand est-ce que ce moment où le Seigneur sera, où Jésus-Christ, où Jésus, qui est appelé Christ, c'est-à-dire choisi pour être roi, sera roi sur Israël et les nations, ce jour du Seigneur, le jour où il sera despote, ce jour où il régnera, on ne sait pas quand est-ce qu'il vient. On ne sait pas quand est-ce que l'enlèvement d'Élise aura lieu. Donc, on attend. Et ce qui fait qu'on veille et on est sobre pour vivre avec lui. On veille et on est sobre, c'est-à-dire qu'on se prépare. Et on se prépare pour avoir cette communion, chapitre 5, versets 6 à 10, mais cette véritable relation, il est dit par exemple au verset 8, ayant revêtu la cuirasse, on en a un petit peu parlé. Verset 9, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Donc en fait, on reçoit tout ce qui est relatif à la vie chrétienne. Et fin du verset 10, il est dit pour que nous vivions ensemble avec lui. Voilà qui est très beau. Hein? On attend pour vivre avec lui, pour finalement attendre avec lui. Hein? S'il y a du temps de l'attente, alors ce temps-là, il est pour que nous le vivions avec lui. Il est aussi, verset 11, pour qu'on s'exhorte les uns les autres, pour connaître ceux qui travaillent parmi vous et qui sont à la tête. Donc en fait, il faut respecter l'autorité, il faut connaître leur travail, il faut être en paix entre nous. Et puis, finalement, il y a un ensemble d'exhortations qu'on pourrait développer, mais je ne vais pas prendre le temps de le faire. Hein, au chapitre 5, versets 14 à 22, on les note simplement: avertissez les déréglés, consolez ceux qui sont découragés, venez en aide aux faibles, voilà, pratique pastorale par exemple, usez de patience envers tous, ne rendez pas mal pour mal, poursuivez ce qui est bon, réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, on le retrouve, hein, n'éteignez pas l'esprit, abstenez-vous de toutes sortes de mal. Alors voilà, finalement, des encouragements pour attendre, des encouragements pour servir, des encouragements pour attendre. On sait que dans... voilà un peu comment se fait notre service en attendant. Nous sommes après la mort du Seigneur, j'ai décrit ici le tableau. Nous vivons jusqu'à la venue du Seigneur. Et puis, à la venue du Seigneur, alors, on entend... dans 2 Thessaloniciens 2, que ce qui retient ne sera plus là. Alors sera révélé l'inique, l'Antichrist. Et dans Apocalypse 12, on voit que parce que l'enfant mâle est élevé au ciel, alors est précipité Satan sur la terre. Et alors Satan sait qu'il a peu de jours. Et il a 1260 jours. C'est pour ça que je pense qu'il y a 3 ans et demi ici, et que nous serons enlevés après ces 3 ans et demi de paix, de sûreté, dans lequel l'ordre social sera petit à petit instauré, hein, l'ordre mondial, dans lequel se prépare celui qui pourra avoir qui essaiera d'avoir un règne, mais qui ne sera pas couronné. Il essaiera d'être le Tout-Puissant. Et il y aura, comme le décrit le chapitre 11 de Daniel, la confrontation entre l'Empire du Nord et l'Empire du Midi, et Armageddon ne sera pas une guerre contre les Juifs, mais une guerre pour la prise de possession du pouvoir par l'Antichrist, qui en Armageddon, Armageddon, c'est Ar la montagne en hébreu, et Megiddo, le lieu de Megiddo, hein, dans la plaine de Jisréel, il y aura 200 millions de personnes, ça sera colossal. Et donc, le Seigneur Jésus viendra et posera ses pieds sur le mont des Oliviers, qui se fendra en deux. La terre réagira à la venue du roi dans le royaume pour son règne, et il anéantira l'Antichrist par le souffle de sa bouche. Il l'éclairera. Et alors seront anéanties ses armées, et il faudra 7 mois, nous dit Ézéchiel 38 et 39, je crois, pour enterrer les morts. Hein? Donc, il y a ici la venue, l'apparition du Christ. J'aurais peut-être pas dû mettre Seigneur. Oui, c'est pareil. C'est le jour du Seigneur qui commence. Le jour du Seigneur, finalement, commence à l'enlèvement de l'Église, parce que le Seigneur laisse le faux roi venir ici pendant la grande tribulation. Il laisse les nations être sous le faux roi, pour que l'évangile du royaume soit prêché, pour que les nations vraiment souffrent de ce faux roi et se rendent compte que ça ne sert à rien d'avoir quelqu'un, en fait, qui les emmène dans un royaume où il n'y a pas de Dieu. Et donc, l'évangile du royaume est prêché, Matthieu 24, 14. Et alors viendra la fin, c'est-à-dire viendra ce moment où l'abomination de la désolation dont il est question dans Daniel le prophète, c'est-à-dire l'Antichrist, profanera le temple, il se déclarera lui-même Dieu. Certainement, il y a une description, je ne vais pas y rentrer, dans Daniel 11, où on voit que sur l'esplanade du temple, il mettra un autel, hein, qui s'appelle le Dieu des forteresses, où il dira maintenant: notre forteresse, c'est le système, c'est l'organisation mondiale. C'est une sorte de fascisme, hein, dans laquelle notre Dieu, notre sécurité, c'est l'organisation armée, c'est l'organisation informatique, c'est l'organisation monétaire, etc. Et donc, ça sera une grande tribulation, on pourra en reparler. Mais quand le Seigneur Jésus reviendra, alors le temps d'Israël en fait, le temps où Israël sera vraiment cette lumière pour les nations, ce temps à la fin de Zacharie 8, où il est dit, 10 hommes saisiront le pan d'un juif en disant, nous voulons venir avec vous parce que nous savons que Dieu est avec vous. Dieu avec vous, c'est quoi? C'est Emmanuel. Hein, c'est Dieu est là. Alors là, il y aura vraiment ce règne de 1000 ans où l'évangile du royaume sera véritablement prêché aux nations. Les nations verront par le royaume, parce que Dieu est présent dans le royaume, ils verront ce côté extraordinaire de la bonne nouvelle, de la bonne nouvelle d'une nation qui marche bien. C'est ça l'évangile du royaume. Et Jésus, quand il commence à prêcher, il ne prêche pas l'évangile du salut. Matthieu 4, 23, il prêche l'évangile du royaume. Donc voilà l'importance du projet national de Dieu qui commence à la Genèse, qui finit dans l'Apocalypse. Et toutes choses trouveront leur complétude ici. Notons au passage que le paradis fermera ses portes quand? Alors là, il y a une toute petite inexactitude. Il fermera ses portes quand le Seigneur reviendra avec les siens. Ici, la flèche va jusqu'au retour. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la fin de la Grande Tribulation, ressusciteront les martyrs de la Grande Tribulation. Le paradis, c'est la demeure des enfants de Dieu. Hein, les morts qui attendent la résurrection. Et il y aura une résurrection des martyrs, ici, hein, à la fin de la Grande Tribulation. Donc, je n'ai pas fait aller ma flèche assez loin, ici. Et il y a, dans le Hadès, le séjour des morts malheureux qui ressusciteront pour le jugement dernier et pour aller en enfer, qui débutera l'enfer. Il ne faut pas opposer l'enfer et le paradis. Hein, l'enfer débutera après le jugement dernier dans l'état éternel. Alors, on va conclure un peu, reprendre simplement tout cela en réécoutant ces versets. Hein, les tribulations que vous supportez sont une démonstration du juste jugement de Dieu pour que vous soyez estimés dignes du royaume pour lequel vous souffrez. Autrement dit, les gens qui souffrent de ce qui se passe maintenant, mais on peut les encourager avec ça. On peut leur dire, mais vous savez, en ce moment, on est en train de construire pour le royaume de Dieu. C'est vraiment encourageant, c'est vraiment motivant. C'est une juste chose devant Dieu que de rendre la tribulation. Dieu est vengeur, Dieu est juste, et Dieu s'occupe de ceux qui nous font du mal. Mais nous aurons du repos dans la révélation du Seigneur Jésus. Voilà, toutes choses seront abouties quand le Seigneur Jésus sera là. Pour l'instant, il n'y a pas de repos en dehors du repos par la foi. Nous ne voyons pas que toute chose lui soit assujettie. Alors ne cherchons pas à le voir. Ne cherchons pas à établir actuellement un royaume dans lequel la justice habite. Hein? Ne soyons pas dans l'erreur. Ne nous trompons pas de combat. La démocratie, ce n'est pas le royaume de Dieu. Il faut faire attention à ce que nous pensons. Et je pense que beaucoup de personnes le croient. Beaucoup de personnes travaillent pour qu'aujourd'hui la justice soit là. Non. Alors, le Christ, le Messie, le roi, exercera la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il viendra pour être glorifié dans ses saints. Vous vous rendez compte? Nous serons sa gloire. Jeanne, c'est bon, nous serons sa gloire. Les nations nous regarderont et verront la gloire de Christ en nous. Il faut qu'on s'y habitue à cette donnée-là, mais il faut qu'on la prépare. Il ne faut pas qu'à ce moment-là où la récolte se fera, où il y en aura qui éprouveront une perte. D'accord? Est-ce que je suis assez clair? Hein? Il faut qu'au moment où la moisson se fera, eh bien que nous ayons des éléments de moisson. Où sont nos bonnes œuvres aujourd'hui? Est-ce que nous entrons dans nos bonnes œuvres? Alors, amen! Nous entrons dans nos bonnes œuvres et nous faisons nos bonnes œuvres en attendant la récolte. Alors là, ça marche. Il sera admiré dans ceux qui auront cru. Et donc, la prière de Paul, c'est nous prions pour que Dieu vous juge digne de l'appel, pour que, effectivement, Dieu vous secoue, pour que vous soyez dignes quand le Seigneur reviendra. Et alors, effectivement, le royaume de Dieu, Romains 14, 17, il n'est pas manger et boire. C'est-à-dire qu'il est justice, paix, joie, ce qu'il caractérise, c'est la justice qui donne la paix. Et qui donne la joie, de manière générale, je ne vais pas rentrer dans les émotions, hein, dans la description des émotions, mais le royaume de Dieu, il n'est pas encore là parce que la justice n'est pas là. Et Romains parle de justice. Le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en puissance. Hein? Autrement dit, on parle actuellement du royaume de Dieu, mais quand le royaume de Dieu sera là, alors attention, parce que ça bougera. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu ? Bien sûr. C'est-à-dire que dans le royaume de Dieu, ceux qui en héritent, c'est l'épouse. Hein, nous sommes héritiers, c'est nous, Éphésiens 1, verset 11, qui sommes héritiers. Et les Juifs, à ce moment-là, recevront leur roi. Hein, mais ce qu'ils vont recevoir, ça va être difficile pour eux, parce que ça va être un commencement, un règne avec un sceptre de fer. Alors, viendra la fin, Corinthiens 15, 24, quand le Seigneur aura remis le royaume à Dieu le Père quand il aura aboli toute principauté. Autrement dit, à la fin du royaume, eh bien, il y aura une conclusion générale. On pourra dire que Dieu aura montré l'aboutissement des œuvres qu'il aura voulu faire et que nous fassions. Il est dit, il faut qu'il règne, il faut que le Christ règne. Le Christ ne règne pas encore. Hein, j'entends des chants, par exemple, comme « Notre roi est couronné et tout son règne est justice ». Ben non, je crois que ce chant, il n'est pas juste, en fait. Donc, nous lisons dans Colossiens 1, 13 que Dieu nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alors, est-ce que nous y sommes maintenant ? Il me paraît évident que non. Hein, mais dans un sens, nous sommes déjà en train de préparer le royaume et Dieu nous a transportés et Dieu nous donne déjà de travailler pour le royaume avec tout ce qui est lié. Ensuite, Colossiens 4.11, Paul décrit les seuls compagnons d'œuvre pour le royaume de Dieu. Remarquez comme Paul travaille pour le royaume. Et nous, on travaille pour quoi ? Je crois que dans nos églises, on n'entend pas souvent ce travail pour le royaume. 1 Thessaloniciens 2.12, donc, que vous marchiez d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son propre royaume. On n'y est pas encore. Dieu nous appelle et à sa propre gloire. 1 Timothée 6.15, l'apparition de Jésus, que le bienheureux est seul souverain, le roi de ceux qui règnent et seigneur de ceux qui dominent, montrera au temps propre le royaume. Ce n'est pas encore maintenant. Je t'en adjure devant Dieu et le Christ Jésus qui va juger vivants et morts par sa apparition et par son règne. Le royaume, ce n'est pas pour maintenant. Le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre et me conservera pour son royaume céleste. Pourquoi royaume céleste ? Parce qu'en fait, le ciel visitera la terre. Hein, le propos de Dieu de réunir en un les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre en Christ trouvera sa plénitude. Alors c'est un royaume céleste. Mais le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre et me conservera. C'est un futur. Le royaume, ce n'est pas pour maintenant. C'est un sceptre de droiture que le sceptre de ton règne, Hébreux 1, 8. Alors voilà ce qui caractérise le règne, c'est la droiture, c'est la justice. Nous n'y sommes pas encore. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, Hébreux 12, verset 28, c'est pas 28, c'est 38, je crois, hein, eh bien, retenons la grâce. Autrement dit, on est en train de le recevoir, mais il n'est pas encore là, le royaume. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres quant au monde, riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis ? Jacques 2, verset 5, le royaume, c'est pas pour maintenant. L'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera richement donnée, de Pierre 1, 11. Cette entrée nous sera richement donnée. Le royaume, ce n'est pas pour maintenant. C'est un royaume éternel. Autrement dit, attention à notre perception des choses. Que sera l'éternité ? Est-ce que dans l'éternité, il y aura encore des nations ? Peut-être. C'est un royaume éternel. Dieu a appelé des familles. La notion de famille porte la marque du Père. Éphésiens 3, 15. C'est du Père qui est nommé toute famille. Autrement dit, là il y a un jeu de mots en grec. C'est du pater qui est nommé toute patrie. Et patrice en grec c'est famille. Et patrie, chez nous ça veut dire nation en fait. Hein. C'est pour ça que ça a été traduit par famille. Mais c'est patrie, en fait. Autrement dit, la famille porte la marque de Dieu, la marque du Père. Je suggère, je n'affirme rien, mais que dans l'éternité, la famille restera famille, parce qu'elle est fantastique, la notion de famille. Avoir ces lignées familiales, alors bien sûr, il y a toutes les imbrications qui rendent les familles difficiles à garder. Mais les familles, il y a des familles qui sont destinées à être en Gaule, en France, d'autres en Israël, d'autres en Patagonie, etc. Donc dans l'éternité, je ne suis pas certain que la notion, justement, de royaume disparaisse. Mais ça, c'est une suggestion, ce n'est pas une affirmation. Hein. Le jour du Seigneur, important aussi de dire ça, hein, il commence à l'enlèvement de l'Église. Pourquoi ? Parce que Dieu va retrouver ses relations avec Israël. Le Seigneur deviendra, en fait, celui qui règne, celui, le kurios en grec, celui qui a la domination. Et donc, le jour du Seigneur, il ne faut pas qu'on soit ébranlé, nous dit 2 Thessaloniciens 2, verset 1, comme si le jour du Seigneur était là. Hein? Il n'arrivera pas avant que ce qui retient ne soit plus là. Il vient comme un voleur dans la nuit. 2 Timothée 1, 18, le Seigneur, lui, à Osinifor, fasse trouver miséricorde de la part du Seigneur dans ce jour-là. Dans ce jour-là. Autrement dit, Osinifor est appelé à recevoir la miséricorde pour que dans ce jour-là, dans le jour du Seigneur, il reçoive pleinement. Certainement, c'est un enfant de Dieu, mais qui s'est dévoyé. 2 Timothée 4, verset 8, « Désormais m'est réservée la couronne de justice, que le Seigneur juste juge me donnera dans ce jour-là. » Autrement dit, dans le jour du Seigneur, l'enlèvement de l'Église, hier soir Yves Perrier disait que, à son avis, le tribunal de Christ avait lieu immédiatement après. C'est une notion que je partage, avec laquelle je suis d'accord. Nous recevrons nos couronnes. C'est quoi les couronnes ? La couronne de justice. C'est, avec mes œuvres justes, j'aurai une autorité sur les nations. Le Christ, le Messie, le roi des rois, donnera des récompenses. Voilà, oui, mais donnera des délégations. Hein, nous serons la délégation du Messie dans le royaume. Hein, le Seigneur juste juge me donnera ce jour-là, non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition. Vous aimez son apparition ? Alors on y va. On attend ce jour-là. 2 Pierre 3, verset 10, « Or, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et dans ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit sifflant, et les éléments seront embrasés, seront dissous, et la terre et les œuvres qui sont en elle seront brûlées entièrement. » Autrement dit, quand le jour du Seigneur viendra, qui commencera avec l'enlèvement d'Église, il se conclura avec la fin. Et la fin, ça sera la fin des premiers cieux et la première terre, et donc ça ouvrira sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Alors ne vous laissez pas le bouleverser. Que personne ne vous séduise. Pas avant que l'apostasie soit venue, que l'homme de péché n'ait été révélé. Ce fils de perdition qui s'élève et s'oppose contre tout ce qui est Dieu. Là, on fait une lecture cursive du chapitre 2 et du verset 2 et du chapitre 2 de 2 Thessaloniciens. Le fils de perdition qui s'élève et s'oppose contre tout ce qui est appelé Dieu, qui est un objet de vénération, qui lui-même s'assiera au temple de Dieu, qui se présente lui-même comme étant Dieu, et quelque chose retient, bien que le mystère d'iniquité opère déjà, celui qui retient le fera jusqu'à ce qu'il soit loin. Autrement dit, quand l'Église sera enlevée, l'Antichrist sera révélé, l'inique, mais qui sera consumé par le souffle de la bouche du Seigneur Jésus, anéanti par l'apparition de la venue du Seigneur. L'inique est selon l'opération de Satan, en grec energeia, l'opération de Satan, et Dieu envoie une opération d'erreur du grec energeia. Autrement dit, c'est quand il est dit que Dieu envoie une énergie d'erreur, energeia, c'est le même mot que l'opération de Satan pour décrire la venue de l'Antichrist. J'insiste bien parce que chez nous, c'est sensible. Hein? On pense que Dieu envoie une énergie d'erreur pour que ceux qui n'ont pas reçu la grâce ne puissent pas la recevoir après. Pour moi, ce n'est pas juste. Hein? Dieu donne, en fait, à ceux qui ont voulu l'opération de Satan. Dieu donne cette opération. Dieu permet qu'il y ait cette opération. Dieu donne le roi qu'ils ont voulu. Je leur ai donné un roi dans ma colère, je leur ai enlevé le roi dans ma fureur, dit Osée 6 et quelques. Hein? C'est-à-dire que ce n'est pas que Dieu ne veuille plus que des personnes se convertissent pendant la grande tribulation. Au contraire, les martyrs de la tribulation seront très nombreux. Ils auront refusé la marque de la bête. Ils ne recevront pas cette énergie d'erreur, les martyrs de la grande tribulation. Mais qui sont-ils? Eh bien, tous ceux qui voudront un roi selon l'organisation charnelle, l'organisation du système organisé contre Dieu, l'organisation du monde. Mais ceux-là pourront refuser la marque de la bête, ils seront mis à mort, ce sont les martyrs de la grande tribulation, et dans Apocalypse 20, nous voyons qu'ils régneront avec le Christ et avec l'Église. Alors, à nous de garder le bon dépôt, à nous d'être dans ce qui est juste, hein? À nous d'être dans ce qui est vrai, à nous d'encourager les gens à servir en attendant. Hein? Dieu vous a choisi, nous dit 2 Thessaloniciens 2, verset 13-14, dès le commencement dans la sainteté de l'Esprit, pour que vous obteniez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand? Eh bien, c'est pendant le royaume. Donc, demeurez ferme. Donc, que Dieu veuille vous consoler, vous affermir, mais comme on l'a vu hier soir, ça, c'est la souveraineté de Dieu. Mais notre responsabilité, c'est de recevoir la consolation, c'est de recevoir l'affermissement. Alors, priez avec patience. Il ne nous dit pas comment, la patience, mais il nous dit de le faire, même si on ne comprend pas tout. Il nous dit de travailler, de ne pas être à la charge des autres. Il nous dit de ne pas nous lasser en faisant le bien. Il nous dit de reprendre ceux qui ne travaillent pas, ceux qui se mêlent de tout. Il nous a dit de nous retirer même de ces gens-là afin qu'ils en aient comme la honte, qu'ils en aient de la honte. Chapitre 3, verset 6, verset 11, verset 14. Autrement dit, ceux qui ne travaillent pas en attendant, qu'ils en aient de la honte. Mais ceux qui travaillent, qu'ils sachent attendre. Mais attendre quoi? Attendre l'aboutissement de l'ensemble des choses, c'est-à-dire de la vraie récolte. Nous allons récolter tout ça, ça sera extraordinaire. On n'imagine pas, comment dire, la puissance de ces moments, la gloire de ces moments, la gloire pour le Seigneur, mais la gloire pour nous, la gloire, comment dire, de l'œuvre de Dieu de manière générale. Mais si nous ne voyons pas maintenant que toute chose lui soit assujettie, et que nous voyons Jésus qui a été inférieur aux anges, etc., à cause des, et avec la souffrance de la mort, mais regardons ce moment où tout ce que nous faisons aura son lieu. Quand une grand-maman souffre parce que sa petite-fille ne trouve pas encore son chemin, Dieu est souverain, tout ce que nous faisons aura son accomplissement, alors que ces choses nous encouragent et nous permettent de rester dans la fermeté. Alors, il est 10h30, est-ce que vous voulez réagir à ça? Ou est-ce que vous voulez qu'on fasse une pause parce que je pense que vous pouvez être un peu abasourdi?
C'est le premier arrêt du TGV.
Voilà, donc tu peux arrêter l'enregistrement et on verra...